Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, dans cette nouvelle émission d'À voix haute, je vous propose de découvrir un roman de Michel Desbordes, La Demande, paru aux éditions Verdier en 2008. Et dans ce roman, en fait, il est question d'un vieux peintre qui n'est autre que Léonard de Vinci, qui vient à la fin de sa vie sur les bords de Loire, dans une demeure où on lui donne une servante. C'est à peine s'ils la virent en entrant. Elle lavait dans les cours, allait et venait le long des murs avec les seaux et les linges mouillés, tordue d'un coup de poignet, petite, toute habillée de gris, seul brillait le blanc de la coiffe. Elle jetait l'eau sur les pavés puis repartait au puits, tandis que le soleil montait dans le ciel, atteignait le haut des chênes. Elle avait entendu les chevaux sur le chemin, et quand ils passèrent les dernières maisons, les aboiements des chiens derrière les murs, les voix à l'approche de la demeure, étrangères, sonores dans le ciel clair de printemps, midi approchait. Elle les attendait depuis longtemps, les attendait chaque jour, en vérité, depuis Lyon et Romorantin, le message était venu jusqu'ici, il n'allait pas tarder, c'était une affaire de jours. Il serait là pour le dernier dimanche d'avril. Elle avait lavé, dépoussiéré, répandu la bruyère à pleine brassée sur le sol, organisé et prévu la tâche qui lui revenait. Le manoir n'était pas un château, mais était assez grand pour qu'on s'y occupât du lever au coucher du soleil, et sans doute davantage, cuisine, chambre basse et chambre haute, cellier, galerie du parc et de l'autre côté des terrasses, l'écurie, les remises et la bûcherie, bois et charbon pour la cuisine, bois de fourrière pour les chambres. Tranquille et patiente, elle avait attendu, n'avait rien imaginé du maître qui arrivait, ni de ceux qui l'accompagnaient. Depuis plus de 20 ans, elle travaillait dans les maisons du fleuve. Elle les vit passer la grande porte, les élèves puis le vieillard, puis les mules avec les coffres et les couvertures et tout ce qu'ils apportaient d'Italie. Eux, c'est à peine s'ils la virent. Elle traversait la terrasse du côté des écuries, longeait les murs un seau dans chaque main. Devant la galerie, elle s'arrêtait, posait les seaux et les regardait. Elle regardait le vieillard et les élèves, le serviteur, se redressait et, d'une main relevant une mèche tombée de la coiffe, venait vers eux à petits pas dans les futaines grises, le soleil tombait sur les ifs et le buis des terrasses, derrière elle blanchissait le sable des allées. Plus bas, contre une barrière, un âne broutait l'herbe. Elle sourit sans rien dire, les précéda dans la demeure. Ils regardèrent les jardins et les terrasses, regardèrent la servante, par la galerie ils allèrent aux chambres et se reposèrent. Le serviteur donnait à boire aux chevaux et les promenait par la bride. Plus tard, il déchargeait les mules, défaisait les affaires du maître. Les élèves venaient le rejoindre. Ensemble, ils parlaient longtemps. Sous les arbres, ils entendaient la rivière, obscure et fraîche au creux du coteau. Les soirs sans vent, ils l'entendaient rouler sur les cailloux, un bruit clair, apaisant. Pour la rivière et les grands arbres, les falaises blanches qui filaient vers le château, ils disaient qu'ils aimaient la maison. Quand le soleil déclinait, ils voyaient sur la pierre la lumière faire trembler la couleur, calmement, minute après minute, la falaise qui blondissait. Ils restaient dans les jardins et sur les terrasses, c'est à peine si le temps passait. Il leur semblait qu'ils ne finissaient pas d'arriver, de quitter l'Italie. Elle les regardait attentive, ils surprenaient le regard sur eux, sans méfiance, le regard simplement curieux et craintif. Elle observait le vieillard aux yeux clairs. Il la regardait, souriait sans rien dire. Il se reposait et, hormis deux ou trois visites aux Italiens de la ville et des promenades au bord du fleuve, sortait peu. Les jours de soleil, il marchait dans le parc ou sur les terrasses, ou bien ordonnait qu'on installât une table dehors. Il écrivait, regardait les arbres dans les allées, dessinait. Il faisait beau. Les nuages filaient sur les coteaux, clairs, rapides dans le bas du ciel. De temps à autre, quelqu'un, élève ou serviteur, arrivait avec de l'encre, des plumes et du papier. Puis il demandait qu'on sortît les chevaux, le genet, le moreau noir et la jument à quenée. Assis sur la terrasse, il dessinait les chevaux. Plus tard, il rentrait, retrouvait les élèves à l'atelier. Ils exécutaient à sa manière le portrait d'une femme ou un ange pour une chapelle. Ils parlaient de mains et de lumière. Ils corrigeaient un contour, un regard paupière baissée, rehaussait une ombre. De tous ces jours-là, il ne disait rien d'autre. S'habituait au nouveau pays. Un peu avant le souper, il descendait à la cuisine. Il la trouvait à la grande table, elle épluchait des choux et des raves, des légumes pour le lendemain, hachait des oignons dans une corbeille. Ils lui faisaient leurs compliments et s'installaient autour du feu, se taisaient un moment puis commençaient à parler entre eux, à voix douce et chantante, cette langue qu'elle ne comprenait pas. Elle les regardait sans rien dire, sans même paraître les voir, souriait doucement, d'un mouvement d'épaule, elle se détournait, regardait par les fenêtres. Une paysanne, c'est ce qu'on leur avait dit, est venue des tourbières, plus bas après la première forêt, de celles qui servaient dans les maisons du fleuve, avait toujours servi, à peine grandie, travaillait aux récoltes, faucillait le foin ou le jonc des étangs, rouissait le chanvre et s'occupait des bêtes. Le soir, dans les masures, filait et tissait sans rien dire, si ce n'est l'hiver au veillé, et encore, dans ces forêts, on était peu bavard, de bonne heure, on apprenait à se taire. Elle était petite et frêle, comme une enfant, se dirent-ils. Le visage était fin et le nez délicat sous le grand front. Rien ne disait qu'elle venait des étangs et des basses terres, de ces hameaux où, bien avant la nuit, granges et masures et petits bois alentour s'enfouissaient dans les brouillards, les fumées blanches qui montaient des labours et les bruits même dans la lumière grise, la nuit avançait. Les cheveux avaient dû être blonds, l'étaient peut-être encore sous la coiffe d'où émergeait au travers d'une mousse claire un léger frisolis, une mèche lissée sur la tempe. Elle devait avoir 40 ans, 45 peut-être. Elle-même l'ignorait. Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Elle préparait pour eux carpes et lamproies, petits brochets du fleuve, anguilles qu'elle écorchait, retournait comme un gant, leur servait melons, figues et citrons comme en Italie. Elle, sur son coin de table, mangeait sa soupe de légumes ou d'avoine, son lait caillé. D'une main relevant l'écuelle et de l'autre piochant avec la cuillère, elle mangeait sans bruit, pas même le tintement de la cuillère contre l'étain ou le bruit du verre qu'elle vidait à petites gorgées et reposait sur la table. S'ils lui proposaient de souper avec eux, elle assurait que cela n'était pas nécessaire et qu'ils ne devaient pas se soucier d'elle. Ainsi continua-t-elle de faire, quand ils arrivaient, elle achevait son repas, et quand elle l'avait achevé, restait encore un moment, épaules basses et tête baissée, immobile un dernier instant, comme s'ils n'avaient pas été là ou comme si eux-mêmes, à leur tour, l'avaient ignoré. Quand vêpres sonnait, elle se levait et dressait le couvert. Elle allait au coffre et tirait la nappe. D'un grand geste la déroulait sur la table, du revers de la main la lissait, posait les verres et les écuelles. Les gestes étaient précis, mesurés. Les yeux baissés et le silence faisaient penser à l'application et l'inquiétude. Il sentait l'épreuve, le souci de bien faire, tragique et sans mesure. Ils disaient ce qu'ils aimaient, pâtes légères, poissons et vin de petits crus. D'un imperceptible glissement des hanches dans un bruit d'étoffe fraîche, elle s'inclinait devant eux. Un dernier rayon de soleil effleurait le sol. Juste devant le foyer, un étroit, tranquille faisceau de lumière blonde, une douceur, une paix dans la tombée du jour, un acquiescement à la nuit qui venait, à la solitude. Dans le soleil qui se couchait, il voyait juste au-dessus de la tempe s'éteindre le blanc de la coiffe. Quand l'heure venait de les servir, elle se retournait et disait doucement « Messer ». D'un appui du poing sur la jambe, il se levait et, suivi des élèves, s'approchait de la table. Ils se regardaient. Parfois, le regard se détournait pour mieux voir. Les élèves étaient d'une grande beauté. L'aîné parlait avec le maître, vivement et avec de grands gestes. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Elle regardait les élèves, le vieillard aux yeux clairs, les servait sans rien dire. Venait vers eux en baissant les paupières. Quand ils lui parlaient de la ville et du pays ou du souper qu'elle leur servait, elle répondait d'une phrase vite dite et à voix basse, puis rougissait tempes et fronts, les yeux rivés à l'ouvrage comme à ce qui protège, l'horizon à ne pas perdre de vue. Ils observaient les yeux brillants et les paupières baissées, la veine qui palpitait à même la peau, juste au-dessus du col de la robe, imaginait la gorge fanée sous la futaine. Elle n'avait pas d'âge. Des chiens aboyaient. Doucement, elle sursautait, regardait par la fenêtre. Le soleil disparaissait derrière les tilleuls de l'allée. Il effleurait un instant le bord de la table et le tablier relevé sur la hanche, le bras clair. Il tardait à monter dans les chambres et souvent, bien après que la nuit fût tombée, s'attardait autour des feux ou sortait sur les terrasses quand, avec la douceur du vent et les nuages clairs, il sentait venir les beaux jours. Il parlait du pays et des gens d'ici, de la lumière au-dessus du fleuve. Il la questionnait sur le fleuve et les bords du fleuve et la forêt qui prenait après les coteaux, les routes qui par là menaient aux tourbières, lentement. Et cherchant leurs mots, parfois, c'était comme s'ils chantaient. Ils préparaient les voyages, disaient qu'ils allaient parcourir le pays du nord au sud et par l'est jusqu'à l'autre fleuve, aller à Romorantin où le château devait être refait, et de là jusqu'à Bourges par la forêt et les basses terres. Il fallait assécher le pays entre les fleuves et faire s'écouler les eaux troubles dans des fossés, ailleurs irriguer les terres pour les blés, amener la Loire jusqu'à Chambord et y bâtir un château pour les chasses du roi et des deux reines. Ce n'était pas pour des portraits ou des fresques dans leur chapelle qu'il l'avait fait venir. Lui qui ne désirait plus rien, ne demandait plus rien à personne, et avait tellement usé ses yeux à l'étude que certains soirs c'est à peine s'il y voyait. C'était pour qu'il portât sur eux le regard dont ils avaient besoin, et leur dit la manière de faire, leur assura la perfection des colonnades et des coupoles et des statues encore plus belles que 1000 ans auparavant celles des jardins d'Étrurie. Lui demandant ce qu'il ne demandait jamais qu'aux Italiens, la beauté, et plus encore que la beauté, la certitude de la beauté. En échange de la demeure et du parc et de la rivière tout en bas, en échange de leur admiration et de leur infinie bienveillance, et tout l'honneur était pour eux, disait-il, il imaginerait les châteaux et les escaliers, étudierait les façades et la profondeur des jardins, les fossés, les moulins, 4 à l'entrée de la ville, 4 à la sortie, le tracé des rivières, les canaux entre les rivières et comment avec des écluses élever le niveau du fleuve, puis faire se perdre les courants. Prévoirait les digues au travers des eaux et que les eaux à l'endroit de leur chute déposassent leurs sédiments. Il partirait avec les élèves, parcourrait le pays comme il avait parcouru l'Émilie et la Romagne, l'Ombrie et la vallée du Tibre, dessinant, calculant, dressant cartes et plans, peignant s'il restait du temps. Il servait, avait toujours servi, chacun à sa manière, même les plus grands. À 12 ans, dans les bottegas, il gâchait le plâtre, pilait la terre, l'ambre et les poudres, manches retroussées, bariolées dans les robes qui leur battaient les mollets, ils allaient et venaient entre la chaux, l'or et les stucs, l'argent des Alpes. Ensemble, comme dans les chants qu'ils entendaient le soir depuis la seigneurie, ils figuraient l'ange de l'Annonciation, fondaient les cloches de Pistoia ou sculptaient dans le bronze la chevelure de David. Le soir partait en ville livrer les portraits et le cimier des casques, le plateau des accouchés. Fils de paysans, de bouchers et de tanneurs, qui bientôt maître des perspectives et des peintures à fresco, exécuterait sans rien dire ce que les maîtres, les vrais, commandaient pour leur palais, leur rêve fou, interdisant qu'ils fissent quoi que ce fût de leur invention, ordonnant et décidant de tout, de ce côté-ci la Vierge dans une robe cramoisie fourrée d'or vert, et de l'autre les saints et les anges, et derrière eux les toits et les colonnades de la ville, les frontons et les portiques très exactement reproduits. Ils peignaient les beaux visages et les chevelures dénouées, les grandes batailles et le corps brillant des grands chevaux. Et cette histoire de l'homme-dieu où tout toujours recommençait, du désir et du châtiment. Ils exécutaient, offraient la gloire et la beauté. Parfois, et sans même le savoir d'un trait, d'un geste attisaient le rêve. Ces au-delà sans nom, où l'homme régnait si beau sous les voûtes des chapelles, nu, troublant comme le dieu qui du doigt lui donnait vie. Quand il mourait, on parlait d'eux. Le maître Giotto, et le maître Masaccio, et le maître Alberti, et le maître Della Francesca. Quand ils avaient fini, ils décoraient les chambres des maîtres et organisaient leurs fêtes et leurs funérailles. Eux, ce qu'ils avaient à dire, ils ne le disaient pas, attendant et attendant encore des années, et la mort les prenait de court, ils ne le diraient pas, ne le diraient jamais, ainsi allaient les choses. Ils tendaient de noir les chambres des palais, organisaient les chagrins, rassemblait autour des mortes les moires et les satins et tous les ors de la création, tant et tant que les ambassadeurs s'en émerveillaient. Vraiment, ce qu'ils voyaient en Italie dépassait en splendeur toutes les imaginations. Des jours et des jours, cavaliers et chevaux parcouraient la ville, et les suivaient avec cierges et flambeaux les enguenillés des faubourgs, dans d'autres rues ou les mêmes que celles où les années de peste, eux, leurs fils ou leurs pères, s'entassaient aux portes des maisons dans la chaleur accablante des étés, jusqu'à ce que, décomposés bien au-delà de la charogne à pleine pelletée, les charrettes viennent les ramasser. Parfois, abandonnant les fêtes et les chapelles, les hommes et les dieux au corps troublant ou les vierges dans leur velours et leur taffetas cramoisi, ils allaient chercher d'autres maîtres dans d'autres pays et d'autres villes où tout recommencerait. Tout recommençait toujours des choses annoncées. Il n'y aurait jamais que la mort pour y mettre fin. Il y avait des soirs où il se taisait, d'autres où il parlait fort. Quelque chose dans la voix qui disait l'étonnement ou le désarroi, et puis de longs silences. Ou bien l'aîné des élèves apostrophait le maître, la voix rauque et chantante, se levait et marchait autour de lui. Sans rien dire, le maître écoutait. Tandis qu'il parlait, il la regardait, observait comme à son tour elle se tournait vers eux. Le regard, observait-il, était furtif et cherchait à savoir, l'instant d'après se dérobait, d'autres fois elle continuait à ne pas les voir. Assise sur son tabouret, elle frottait d'ail et de civette son pain d'orge, mangeait en silence, droite et genoux serrés sous les larges plis. Dans le creux de l'étoffe, il voyait l'ombre bleue et au milieu de l'ombre, le quignon de pain. Plus tard, d'un froissement de jupe, elle s'approchait et tendait une pomme sortie du feu ou un verre de vin clairé. Parfois, elle les laissait dans la cuisine et prenait le frais sur le banc devant les buis. Le vent tombait et le ciel au-dessus du fleuve s'épaississait, lourd et gris. Le bruit des chevaux venait jusqu'à eux. Il y en avait quatre à l'écurie et deux juments qui vieillissaient, la fauve et la poil de souris. Ils devaient partir pour les bourgs de la forêt en chercher d'autres. Eux parlaient encore. C'était Michel Desbordes, La Demande, aux éditions Verdier, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle émission à voix haute. Bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.